bonsoir à tous. Dermatose nodulaire contagieuse, les Deux-Sèvres sont pour l'heure indemnes, mais pour combien de temps encore, s'interroge la Confédération Paysanne qui pointe du doigt la gestion par l'État de cette DNC. Pour raison de santé, un an et demi après avoir pris la gérance du multiservice de Menomblé à la frontière de Sévrienne, le couple est contraint d'abandonner l'affaire. La municipalité lance un appel. La 11e édition de l'étrange week-end vendredi, samedi et dimanche, plus d'une centaine de bénévoles seront sur le pont pour offrir de belles frayeurs. Pour le 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres avec différentes organisations a décidé d'aller à la rencontre de la population et des élus.
La météo à l'issue du journal, on attend une amélioration pour demain après-midi avec développement d'éclaircies.
À peine 2 minutes. 1 minute 38 secondes précisément, c'est le temps qu'il a fallu à 2 individus pour voler dans le magasin Nocibé de Bressuire hier après-midi vers 15h. À visage découvert, ils ont rempli un sac de parfum avant de prendre la fuite à bord d'une voiture stationnée devant la parfumerie. Il n'y a pas eu de violence, mais le préjudice est estimé à près de 3000 euros. Une enquête est en cours. Selon nos informations, des témoins auraient eu le temps de relever le numéro de la plaque d'immatriculation. Il y a une quinzaine de jours, un cambriolage avait été perpétré dans une enseigne similaire à Thouars, mais là, les voleurs avaient agi en pleine nuit et avec l'aide d'une voiture bélier. Le service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Cholet continue de faire face depuis plusieurs semaines à des tensions importantes. Pour éviter une surcharge des services hospitaliers, la direction appelle la population à adopter les bons comportements en cas de problème de santé, à savoir s'orienter en priorité vers son médecin traitant en cas d'urgence et si aucune autre solution n'est disponible, se rendre certes aux urgences, mais uniquement après avoir pris un avis en composant le 15. Le médecin régulateur évaluera votre situation et vous dirigera vers le recours le plus adapté, conclut le communiqué de l'hôpital de Cholet.
La Confédération Paysanne appelle aussi l'État à revoir sa copie dans la gestion de crise de la dermatose nodulaire contagieuse.
La semaine dernière, la FNSEA et les JA signifiaient leur désaccord. Hier, la Confédération Paysanne a précisé sa façon de penser concernant la gestion par l'État de la DNC, épisodie bovine traitée par une politique étatique et européenne d'abattage total des troupeaux concernés, politique à laquelle la Confédération Paysanne s'oppose fermement. Benoît Jaunet, porte-parole du syndicat en Deux-Sèvres, interrogé par Fabien Gazot.
On fait la politique de la terre brûlée, mais la maladie va plus vite que cette politique-là. Et les principales victimes, c'est d'abord les paysans, qui leur feu de travail est abattu, et un certain nombre aujourd'hui de vaches saines, qui ne sont pas malades, qui sont abattues, pour un principe de précaution qui aujourd'hui ne fonctionne pas et fait plus de victimes collatérales que d'intérêt général.
Alors que faut-il faire selon la Confédération Paysanne ?
D'abord, écouter ce qui se passe sur le terrain plutôt que de prendre des décisions dans des bureaux parisiens, parce qu'aujourd'hui tout est condescendant. Et on pense, nous, à la Confédération Paysanne, que on pourra avoir notre gestion de crise qui emmène effectivement sans doute de l'abattage d'animaux malades pour éviter le développement de la contagion, d'avoir des interdictions de mouvement strictes et qui fonctionnent pour isoler les secteurs plutôt que d'avoir de la maladie qui se balade, et d'avoir des principes clairs, parce qu'aujourd'hui sur l'application de tout ça sur le terrain, les gens finissent par être paniqués et font des erreurs.
Il faut donc limiter les mouvements des animaux, selon la Confédération Paysanne, qui demande l'accès à la vaccination pour tout le cheptel français, une meilleure coordination entre tous les acteurs pour une gestion souple et adaptée. La Conf réclame également des mesures protectionnistes immédiates, pas d'importation alors que les frontières sont fermées à l'exportation. Force en tout cas est de constater que l'inquiétude est grande dans les élevages.
Il y a de l'inquiétude, bon, pour espérer que la maladie arrive jusque chez nous. Et on sait qu'il y a des départements en France, dans l'ouest de la France, qui sont en surveillance parce que des animaux sont arrivés du Jura et ont été en contact par des transports avec des animaux malades. Donc là, on est inquiet. Et on aimerait pouvoir avoir accès à la vaccination pour anticiper. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est les dommages économiques sont réels. Le fait d'interdire l'exportation fait maintenir des animaux en France sous pression et les acheteurs en profitent pour baisser les tarifs. Et donc aujourd'hui, il y a déjà une baisse des prix des veaux, des petits veaux et des prix des broutards. Donc la deuxième inquiétude, elle est là-dessus. Et pour une fois, les cours de la viande allaient mieux pour les éleveurs qui font très souvent partie des plus faibles revenus agricoles. Et quand ça va mieux, pof, on trouve encore un truc pour nous dire que le prix va baisser. Donc ça, c'est l'inquiétude aussi quotidienne des éleveurs. Pour ceux qui vendent à l'export, il faut qu'ils gardent les animaux chez eux. Et ceux qui avaient l'habitude de vendre, y compris pas très loin, ont une pression sur le prix un peu dommageable. pour protéger quelques intérêts d'exportateurs. Et notre vision exportatrice aujourd'hui nous coûte très cher, et c'est l'ensemble du monde paysan qui à chaque fois en est victime.
Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération Paysanne en Deux-Sèvres. France Travail a communiqué ses données concernant le troisième trimestre 2025. En Deux-Sèvres, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 24 650 personnes, dont 12 460 de catégorie A, c'est-à-dire sans emploi. Des chiffres d'augmentation de plus 1,5% sur le trimestre et de 9,9% sur un an.
Direction maintenant Menomblé, en Vendée, à la frontière des Deux-Sèvres.
Menomblé, 700 habitants, son école, son foyer de jeunes, une riche vie associative et l'incontournable, son commerce de proximité, bar, restaurant, petite épicerie et un point Française des Jeux. Mais voilà, pour raison de santé, l'actuelle gérante se voit à contre-cœur devoir abandonner l'affaire, pourtant économiquement viable. La municipalité, qui a racheté le fonds de commerce en janvier 2024, lance un appel urgent à d'éventuels candidats. Le maire, Jean-Pierre Marquis.
Oui, il y a un caractère d'urgence puisqu'on veut maintenir le multicommerce, bar, restaurant. C'est quelque chose de très important. C'est un lieu de rencontre, de convivialité, d'échange aussi. Et ça, on veut le préserver à tout prix, quoi. Donc, c'est urgent. C'est une location gérance, oui. Donc, c'est un loyer par mois fixe. On l'a pas mis indexé sur le chiffre d'affaires. Hein. Après, bon, si la personne dégage du bénéfice, ben, c'est tout le bonheur pour elle.
Tous les équipements sont déjà sur place. Hein.
Tous les équipements sont déjà sur place. Tout. La licence 4, le mobilier, la cuisine aussi. Ouais, tout est appartient à la mairie et mis à la disposition de la personne qui sera intéressée pour reprendre ce multicommerce.
Vous avez déjà eu des candidats ?
Plusieurs candidats. Certains, bon, ça a avorté parce que, bon, ils n'étaient pas dans la vision que nous, on se faisait d'un gérant, quoi. Et on espère recevoir d'autres personnes pour ce commerce. Et c'est vrai qu'on note, enfin, l'état d'urgence quand même de cette recherche, quoi.
Valérie Pipard, originaire de la Sarthe, dans le commerce depuis l'âge de 27 ans, précédemment propriétaire d'un restaurant, est tombée sous le charme de cette petite commune vendéenne et de ses habitants. Arrivé à Menomblé avec son époux en février 2024, ils ont apprécié l'accueil et l'engagement de la municipalité pour leur offrir des conditions de travail optimales. Valérie Pipard.
C'est un établissement très bien. Franchement, il n'y a rien à redire en vérité. On a la clientèle, on a ce qu'il faut derrière. Ils n'ont pas d'autres commerces. Alors c'est sûr que c'est un des commerces. On est reparti à zéro complètement. Il n'y avait plus du tout de clients. Quand nous on a repris ici, c'était fermé. Il a fallu refaire toute la clientèle. Les gens sont revenus sur la pointe des pieds. Et puis aujourd'hui, ben, ils sont même un peu déçus que je parte, quoi, parce que voilà, aujourd'hui la clientèle s'est très vite adaptée.
Vous partez à regret, hein?
À très grand regret, oui. Oui, je n'aurais pas la maladie qui me serait tombée dessus, je ne serais pas partie.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, les éventuels porteurs de projets ?
Honnêtement, si vous êtes vraiment commerçant, que vous aimez la convivialité et le contact avec les gens, et que vous restez simple, il n'y a pas besoin de trois étoiles ici. La simplicité, et les gens vous adoptera très vite.
Valérie Pipard et son mari Stéphane ne comptent pas quitter Menomblé et espèrent eux aussi que ce multiservice perdurera. Ils devront cependant bien entendu quitter le logement qu'ils occupent à l'étage. Trois chambres, salle de bain, cuisine, salle à manger. Quoi qu'il en soit, les éventuels candidats pour cette location-gérance de l'établissement sont invités à se rapprocher de la mairie. Les identités des nouvelles enseignes qui vont s'installer dans l'ancien géant casino de Chauray sont connues. L'hypermarché a fermé ses portes en septembre 2024 et on savait déjà que le supermarché à bas coût Lidl occupera 2000 mètres des 10 000 mètres carrés disponibles. Ils viendront ensuite rejoindre le discounter allemand, à savoir New Yorker, pour du prêt-à-porter, notamment pour les jeunes. L'enseigne danoise Normal, qui vendra des produits du quotidien à bas prix. Enfin, Mojette et compagnie, spécialisée dans les produits locaux et de souvenirs, déjà implantée dans le centre-ville de New York, et ouvrira une deuxième boutique. Seolis informe qu'une importante vague de phishing, hameçonnage, cible actuellement les clients et fournisseurs d'énergie. Des messages frauduleux particulièrement convaincants circulent en ce moment, certains usurpant notamment le dispositif du chèque énergie. L'objectif de ces courriels est de rediriger les particuliers vers de faux sites afin de leur soutirer des informations personnelles ou bancaires. Vous êtes donc invité à ne pas cliquer sur les liens contenus dans les messages suspects, ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires ou personnelles et signaler les courriels frauduleux via le site officiel service-public.gouv.fr.
À Thouars, les bénévoles sont à cran pour l'étrange week-end.
La frousse est de retour avec l'étrange week-end dont la 11e édition a eu lieu ces vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre pour les adultes et dimanche 2 pour les tout-petits. Tout cela à l'Orangerie du Château. Au moins 4000 visiteurs sont attendus dans ce dédale élaboré depuis depuis des mois par les bénévoles de AJT, l'association Jeunes Touarçais. Les précisions de Guillaume Tomaso d'Iguli au micro-colline de notre correspondant Touarçais Dominique Hérault.
On commence à dessiner le labyrinthe vers le mois de mars. On a une quarantaine de bénévoles qui commencent à s'impliquer autour de ce plan et les décors commencent à prendre vie à ce moment-là. Après, sur le week-end, on peut tourner jusqu'à 120 bénévoles, aussi bien en acteurs, en sécurité, et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir assurer toute la logistique du week-end. On a donc un parcours de 13 salles. On a deux salles principales à l'extérieur qui sont énormes. La longueur du labyrinthe va faire à peu près 800 mètres, qui va passer donc d'un univers à un autre, quelquefois par du fantastique et très souvent par de l'horreur. Tous les ans, on met un point d'honneur à mettre des nouveaux thèmes pour pouvoir surprendre nos publics les plus fidèles.
Qu'est-ce qui fait votre inspiration ?
Chaque bénévole et responsable de salle qui vient apporter des idées toutes plus farfelues sur le papier les unes que les autres, mais qui au final nous donne cet univers particulier qu'on arrive à avoir à l'étrange week-end et qui fait sa singularité. Le public vient de plus en plus loin chaque année. On a même des habitués qui prennent leurs vacances de Paris. On touche vraiment tous les départements limitrophes et de plus en plus loin en fait. On est surpris aussi de ça tous les ans. On a vraiment de tous les âges.
Sans limite donc pour le fantastique et surtout la frayeur librement consentie. L'entrée est à 3 euros et le pass VIP à 6 pour réserver son horaire. L'étrange week-end 11e édition, c'est donc c'est vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre à l'orangerie du Château de Thouars. Une séance est proposée au Petit Peureux le dimanche 2 novembre de 10h à midi. Un contact, le 06 19 16 76 07 ou sur Facebook. À l'approche du 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises de l'État, promulguée le 9 décembre, la Ligue de l'Enseignement, avec différentes organisations, a décidé d'aller à la rencontre des populations et des élus, l'objectif étant de promouvoir cet anniversaire. Il y a quelques jours, la Ligue a reçu la visite de Marie-Laure Tirel, secrétaire générale du Comité national d'action laïque. Elle a rappelé l'enjeu de la laïcité dans l'organisation de l'école et de l'importance de cette loi.
Cette loi n'est pas forcément remise en question, mais la laïcité est souvent interrogée au sein de la population à travers son bien fondé, à travers finalement peut-être des interdits qu'elle donnerait aux citoyens à travers l'exercice de leur culte, au travers la limitation de leur expression. Alors qu'au contraire, cette loi est une loi de liberté qu'il faut rappeler au quotidien. Et nous, au sein forcément des établissements scolaires, en tant qu'enseignants, en tant qu'intervenants, il faut qu'on puisse l'expliquer aux élèves, aux étudiants, pour qu'ils puissent prendre conscience de ces libertés. On sait que les plus jeunes ont tendance quand même à s'interroger sur le bien fondé de cette loi, ou en tout cas de l'impact que cette loi peut avoir sur leur liberté. Et donc, il faut leur rappeler que, au contraire, cette loi leur permet toutes les libertés qu'ils ont, que ce soit la liberté de culte, mais aussi la liberté d'expression, plein de libertés sous-jacentes au principe de laïcité qu'il faut qu'ils intègrent pour aussi la promouvoir dans leur cercle familial, dans leur quotidien, auprès des différentes personnes qu'ils peuvent rencontrer.
Dans le cadre de ce 120e anniversaire de la loi de 1905 et jusqu'au 9 décembre, la Ligue de l'Enseignement, avec ses partenaires du Comité d'Action Laïque, a prévu de mener différentes actions. Les précisions de Jérôme Bacle, délégué général de la Ligue d'Enseignement des Deux-Sèvres, toujours au micro de D4B.
Il y a eu tout un travail de relation avec 7 communes et une quinzaine d'établissements scolaires pour envisager la production d'une trace de cet anniversaire-là. Donc on va continuer d'accompagner toutes les écoles et toutes les collectivités qui souhaitent aborder le sujet, mais on va se focaliser sur un zoom sur ce qui se passe dans ces 15 établissements scolaires et on va essayer d'en prélever une essence sous forme d'une production audiovisuelle pour avoir des séquences vidéo qui nous permettent de dire comment on peut parler de la laïcité à l'école, au collège, au lycée, comment on peut en parler dans l'espace public. Et puis voilà, donc les capsules, elles permettront d'évoquer le principe et d'évoquer aussi la manière dont on peut en parler au quotidien. On sent qu'il y a un besoin de peut-être d'avoir des ressources, des outils, une stratégie, une méthode et puis des espaces de dialogue. Donc dans notre programme, il y a comme chaque année la plantation d'arbres. La plantation de l'arbre, c'est un moment où on s'arrête et on installe un symbole. Et c'est l'occasion d'en parler de manière sereine. Mais il y a d'autres outils à développer pour en parler aussi dans la classe, dans l'association de parents d'élèves, en conseil municipal. Donc ces outils-là, on a envie d'en partager. Et on a envie de montrer qu'on peut accompagner tous ceux qui souhaitent le faire.
Au sein du comité départemental d'action laïque, on retrouve bien sûr la Ligue de l'Enseignement, mais aussi la FCPE, l'UNSA et des DDEN, des délégués départementaux de l'éducation nationale. Un mot de football, les Herbiers joueront à Orvault lors du 7e tour de la Coupe de France. Orvault tombeur de la Roche, Fontenay recevra une autre N3, Chamalière. Esnay, une R1 décroche le pompon avec la réception de 3 leaders de Ligue 2. Je vous rappelle qu'il n'y a plus aucun représentant de Sévrien dans cette compétition.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Une nouvelle fois, les nuages auront dominé ce mercredi.
Avec de la pluie jusqu'en début de soirée, pluie qui ensuite devrait disparaître. Le vent a pu souffler jusqu'à 40 voire 45 km par heure en rafale. Vent qui se calmera également. Les nuages domineront également demain matin, mais normalement sans donner de précipitations. Attention tout de même à d'éventuels brouillards locaux en début de matinée. Les éclaircies devraient ensuite se développer dans l'après-midi. Les températures seront prévues entre 8 et 10 au lever du jour, 14 à 16 pour les maximales demain.